Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Une trentaine de morts ce soir en Turquie dans un attentat contre des militaires à Ankara. Aucune revendication pour le moment, mais le président Erdogan promet de riposter aux terroristes. Dans un instant, notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billette. En France, Manuel Valls annonce une baisse des charges pour les agriculteurs. La FNSEA se dit satisfaite alors que la coordination rurale dénonce un arrangement entre le gouvernement et le premier syndicat agricole français. La crise du monde paysan touche de plein fouet le modèle agricole breton. Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Pierre Vermeren. Nicolas Sarkozy pose une question prioritaire de constitutionnalité pour tenter de faire annuler sa mise en examen. Le décryptage à suivre de Laure de Vulpian. L'armée turque a donc été visée ce soir à Ankara par un attentat particulièrement dévastateur. 28 morts et 61 blessés dans l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un convoi militaire dans la capitale. Bilan encore provisoire. L'attaque a eu lieu à proximité du quartier général des forces armées, non loin du Parlement turc. Il n'y a pour le moment aucune revendication, mais cet attentat intervient au moment où la Turquie bombarde les Kurdes qui gagnent du terrain dans le nord de la Syrie. On fait le point avec notre correspondant à Istanbul. Alexandre Billette.
L'attentat a été commis à l'aide d'une voiture piégée à 18h31 locale. Une explosion entendue dans tout le centre d'Ankara alors qu'une imposante colonne de fumée était visible depuis le lieu de l'attaque et qui a eu lieu dans le quartier des ministères et de l'Assemblée nationale de Turquie qui se trouve à quelques centaines de mètres. Le quartier théoriquement le plus sécurisé, le mieux protégé du pays. Et c'est un attentat qui a visé véritablement le cœur politique de la Turquie. Le Conseil de sécurité turc s'est réuni en soirée en présence du président Recep Tayyip Erdogan. Le président Erdogan qui a annulé sa visite prévue demain en Azerbaïdjan, tout comme le premier ministre Ahmet Davutoğlu qui ne se rendra pas à Bruxelles comme prévu. Et le gouvernement turc qui a également imposé un blackout aux médias qui officiellement ne peuvent plus couvrir les suites de cet attentat en direct. Pas de revendication pour l'instant, mais deux pistes qui sont évoquées. D'abord, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui a rompu le cessez-le-feu l'été dernier. Autre hypothèse, l'État islamique, alors que la Turquie est directement impliquée désormais dans le conflit syrien.
Alexandre Billette, et effectivement, en raison de cet attentat, le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu ne se rendra pas demain à Bruxelles pour évoquer la crise migratoire avec les dirigeants européens. Conséquence, la réunion des 11 pays volontaires pour accueillir davantage de réfugiés arrivant de Turquie. Eh bien, cette réunion a été annulée. En France, Manuel Valls tente de calmer la colère des agriculteurs. Le Premier ministre annonce une baisse immédiate des charges sociales de 7 points, ajoutée aux 3 points accordés précédemment. On arrive à une réduction de 10 points, soit la baisse exigée par la FNSEA. Alors si le premier syndicat agricole est plutôt satisfait ce soir, les autres organisations expriment leur mécontentement, Diane Ferschit.
Cette baisse de 7 points des cotisations sociales représente un effort de 500 000 euros de la part du gouvernement. En contrepartie, il demande au monde agricole de prendre ses responsabilités et de faire cesser ces manifestations. Xavier Belin, le président de la FNSEA, salue une réelle avancée.
Le Premier ministre a fait une annonce extrêmement importante qui est de ramener les agriculteurs français dans une moyenne européenne en termes de prélèvements sociaux. Pour le dire concrètement, un agriculteur aujourd'hui qui gagne 100 euros l'année suivante se faisait appeler, jusqu'à un passé récent, 45 euros de cotisation sociale. Ce chiffre va être amené à 35. Donc c'est 25% de baisse de cotisation sociale pour les exploitants agricoles. Il y a un moment où il faut savoir reconnaître les avancées, c'en est une qui est significative.
Mais pour le président de la coordination rurale, Bernard Lahn, il s'agit essentiellement d'effets d'annonce. Il dénonce un arrangement entre le gouvernement et la FNSEA pour calmer le jeu avant le salon de l'agriculture.
7% de charges sociales en moyenne, c'est un premier pas, mais bon... Moi, ce que j'en pense, c'est que je pense à tous ceux qui sont dans la crise, notamment j'entends tous ces agriculteurs qui sont jetés sur les routes et qui ne voient pas de mesures concrètes et efficaces face à l'ampleur du désendettement. Belin est en train de faire un marchandage avec Valls parce que on est dans un temps politique, le salon de l'agriculture arrive et il faut désamorcer à tout prix cette révolte sociale des agriculteurs, donc on a un effet d'annonce.
Et par ailleurs, les agriculteurs réclament toujours des efforts de la part des grandes surfaces sur les prix d'achat de leurs produits. Les enseignes sont engagées en ce moment même dans leurs négociations commerciales annuelles avec les industries de l'agroalimentaire. Ces négociations doivent prendre fin d'ici le 29 février.
Diane à faire shit. En attendant, les agriculteurs en colère restent mobilisés. Environ 500 tracteurs ont occupé aujourd'hui la rocade de Rennes. Il y a eu des échauffourées devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La Bretagne, épicentre de la colère paysanne. On en parle avec notre invité, l'historien Pierre Vermeren, professeur d'histoire à Paris 1. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Vermeren, pardon, il y a 15 jours dans le Figaro Vox, vous avez signé une tribune pour dénoncer les menaces qui pèsent sur l'agriculture bretonne. Vous n'hésitez pas à parler d'une quasi-liquidation de ce modèle agricole qui repose sur un maillage de producteurs indépendants. Ça veut dire que pour les pouvoirs publics, ce modèle n'est plus rentable ?
Ben, il ne l'est plus à partir du moment où les producteurs ne gagnent plus d'argent. Clairement, il y a un problème économique absolument insurmontable. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi, comment on en est arrivé à quelque chose d'aussi absurde qu'une activité économique qui nécessite des investissements considérables est une activité, au fond, à perte. Bien sûr, le match retour que l'on connaît très bien avec la grande distribution, mais au fond, manifestement, c'est plutôt le modèle lui-même. Ce modèle basé sur des exploitations petites et moyennes, et plutôt moyennes d'ailleurs, qui aujourd'hui semble devoir céder la place à des exploitations industrielles telles qu'elles existent déjà dans une partie de l'Allemagne.
Et ces exploitations industrielles ont fait leur preuve aux yeux des pouvoirs publics ?
Je crois que malheureusement, les pouvoirs publics, pour ce que j'imagine, n'ont pas une réflexion très poussée sur la question, c'est bien le problème. Les pouvoirs publics, ils gèrent au fond une situation de crise dans un contexte de libéralisation à peu près totale des échanges, des flux, des investissements dans l'Union européenne. Donc, ils sont spectateurs un peu d'une situation qui s'est instaurée avec une agriculture française qui était très puissante et très exportatrice et qui est de moins en moins exportatrice au fur et à mesure que les coûts les plus bas sont produits en Allemagne ou à l'est de l'Europe. C'est bien le problème d'ailleurs que cette absence de réflexion, parce que au-delà du système productif dans lequel je ne suis pas très compétent, pour être honnête, c'est tout un modèle de production, mais aussi un mode de vie et surtout une qualité de la production et de la distribution qui est en jeu. Et c'est là qu'il y a une réflexion clairement qui fait défaut, semble-t-il.
Oui, parce que finalement, l'agriculture industrielle, c'est peut-être un peu contradictoire au moment où le consommateur cherche la qualité, la traçabilité.
C'est absolument contradictoire, bien sûr, avec cette question. C'est absolument contradictoire avec la qualité de la nourriture dont on déplore la déficience. Mais c'est aussi totalement contradictoire avec l'environnement, avec la volonté de faire de l'environnement durable et de faire une consommation, une alimentation de viande qui soit compatible à la fois avec l'environnement et avec la gestion des biens et des ressources. Il y a la question de l'eau, il y a la question des terres, il y a la question du modèle alimentaire que l'on veut mettre en place. Alors tout ça, on croirait que ce sont des réflexions qui sont entretenues de manière symétrique. Alors à l'occasion, bien sûr, de la COP21, on a parlé de ces questions, mais on voit que parallèlement, ça n'a, comme si ça n'avait pas d'impact sur les réalités économiques qui sont à l'œuvre et qui, elles, d'une certaine manière, sont irrémédiables. Parce que si, au fond, ce savoir-faire et ces exploitations par milliers sont liquidées, on ne voit pas très bien comment il y aura un retour en arrière possible vers une agriculture soutenable.
Et ce que vous dites, vous, en fait, c'est qu'il faut justement maintenir ce maillage pour développer cette agriculture de qualité.
Il me semble que les personnes qui ont été invitées à sortir, alors ça peut être les agriculteurs actuels ou leurs parents, plus que leurs grands-parents d'ailleurs, parce que c'est des choses qui remontent à une trentaine d'années. Les agriculteurs qui ont été invités à passer à la production de masse, notamment à l'élevage hors sol, on peut imaginer qu'ils ont quand même un savoir-faire, qu'ils ont un intérêt pour le métier particulier qui leur permettrait d'innover, de revenir en arrière. Si ces gens-là sont chassés de leurs terres et que leurs enfants ou eux-mêmes émigrent définitivement vers les villes ou ailleurs, ça va être très très compliqué de pouvoir inventer un élevage qui soit soutenable et qui respecte à la fois l'environnement, un certain nombre de normes d'hygiène et autres telles qu'on voudrait les définir pour le 21e siècle. Et c'est là qu'il y a vraiment un risque, et c'est ça dont j'ai essayé de parler, parce que je me dis, au fond, l'histoire, c'est quelque chose qui va très très vite, et si on réfléchit après coup, eh bien on se dira c'était trop tard, on avait quelque chose de bien qu'on aurait pu faire, comme souvent avec, on le voit avec le modèle industriel français, mais à partir du moment où les choses sont parties ailleurs, eh bien on ne peut plus revenir en arrière. Là, je crois qu'il est encore temps à la fois de maintenir quelque chose et de le faire évoluer positivement.
Pierre Vermeren, qui est responsable de la crise actuelle ? Les gouvernements successifs ? L'Europe ? La grande distribution ?
Oh, certainement, malheureusement, tout le monde et d'autres choses encore. Et même, bien sûr, les agriculteurs et les banquiers ont certainement leur part. Mais c'est certain que le modèle hyper productif qui a été mis au lendemain de la guerre sur pied pour nourrir l'Europe, puis une Europe de plus en plus grande, il a abouti à des comportements économiques totalement ridicules. Au fond, puisqu'on s'est mis à produire pour faire de la quantité à des coûts totalement indépendants du marché. Et le jour où on supprime les subventions, le modèle n'est plus rentable. Et donc, il faut l'éliminer ou en tout cas le restructurer, comme on dit poliment. Donc, c'est une responsabilité de l'Europe, c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Il faut clairement sortir de ce modèle très, très vite, mais encore faut-il avoir une réflexion. Et je pense que les manifestations auxquelles on assiste aujourd'hui de milliers d'agriculteurs, non seulement en Bretagne, mais en France, si ces manifestations ont lieu, c'est que les gens veulent maintenir ces emplois, veulent maintenir cette activité. Or, comme la jonction avec d'autres discours et avec d'autres désirs dans la société, comme une meilleure alimentation et un respect de l'environnement, on les trouve aussi, il devrait y avoir une synergie. Et c'est là que la responsabilité des pouvoirs publics, clairement, est posée aujourd'hui.
Pierre Vermeren, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Revenons à présent sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de sa campagne de 2012. Son avocat, maître Thierry Herzog, va déposer une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour tenter de faire annuler la procédure. Il considère que l'ancien président a déjà été sanctionné par le Conseil constitutionnel pour avoir dépassé le plafond de dépenses autorisé. Thierry Herzog, qui brandit la règle du non bis in idem, pas deux fois les mêmes faits lors de Pian.
Première fois, l'invalidation des comptes fournis par le candidat Nicolas Sarkozy en 2012 pour cause de dépassement, avec, à la clé, l'obligation pour l'ancien candidat de rembourser 500 millions d'euros. Deuxième fois, éventuel, le financement illégal de la même campagne, mais cette fois en tant que délit, passible d'une sanction pénale. C'est précisément ce qui explique le recours probable à cette règle du non bis in idem, principe de droit décidément très prisé ces temps-ci. Tout commence avec EADS fin 2014. L'avionneur avait été jugé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et blanchi de l'accusation de manquement à une obligation boursière. Il s'apprêtait à passer en correctionnel pour délit d'initié, mais sa QPC a été couronnée de succès, la procédure pénale a donc été annulée. Depuis, tout le monde s'y met, comme si c'était la formule magique, abracadabra, etc. Le marchand et collectionneur d'art Guy Wildenstein, l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, leurs QPC sont en cours et leur procès suspendu. Prochain sur la liste, donc sûrement, Nicolas Sarkozy. Comme si la jurisprudence EADS pouvait s'appliquer automatiquement aux autres dossiers du même genre. Mais ce serait trop simple. En l'occurrence, il semblerait qu'il y ait quelques obstacles. Deux conditions ne seraient pas réunies. Il faudrait que l'obligation de remboursement soit juridiquement considérée comme une sanction, ce qui n'est pas certain, et que les faits considérés, dépassement et financement illégal, soient de même nature, alors que l'un se trouve dans le champ électoral et l'autre dans le champ pénal. Ajoutez à cela une difficulté supplémentaire, l'unique juge des comptes de campagne est le Conseil constitutionnel, qui serait aussi chargé de trancher la QPC, alors conflit d'intérêts ou pas, en tout cas, c'est inédit.
Laure de Vulpian, c'était une figure du cinéma d'auteur européen. Le cinéaste et écrivain polonais Andrzej Zulawski est mort cette nuit à l'âge de 75 ans. Zulawski laisse une œuvre marquée par le lyrisme et la démesure, Florence Leroy.
Démesure et lyrisme, sentiments exacerbés, personnages excessifs et possédés, voilà ce qui vient à l'esprit lorsqu'on se retourne sur l'œuvre de Zulawski tournée entre la Pologne et la France. Parmi ses plus grands succès publics et critiques, l'importance est d'aimer, possession, la femme publique ou l'amour braque, et toujours l'amour au centre. L'amour comme une lutte et comme un chaos, et des comédiens et des comédiennes fiévreux, au bord parfois de l'hystérie, ce qui pouvait autant agacer qu'emporter.
Encore ! Bien ! Encore ! Allez, allez, allez ! Je t'aime encore. Encore, vas-y.
On se souvient avant tout de Romy Schneider en actrice déchirée et abîmée par la vie dans L'importance est d'aimer, mais aussi d'Isabelle Adjani dans Possession, fable horrifique sur la jalousie, la passion, le désir jusqu'au bout de la folie, ou encore bien sûr de Sophie Marceau dont la rencontre avec Zulawski marquera un tournant professionnel et personnel, puisque très jeune, au moment de l'amour braque, elle rencontre en fait celui qui deviendra son mari et, comme elle le disait, son maître à penser, avec qui elle tournera, avant de divorcer 17 ans plus tard, 4 films. L'amour braque donc politique, mais aussi Minuit sont plus belles que vos jours, La note bleue et La fidélité, Zoulavski qui ouvrira à celle qui restait alors l'héroïne de la boom, les portes du cinéma d'auteur.
Florence Leroy, un mot de la météo demain, temps perturbé avec de la neige jusqu'en plaine de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, ce mauvais temps froid et neigeux va se décaler ensuite vers l'est du pays.